Gaune, votre nouveau rendez-vous sur la Hip-Hop Soul Radio. Tous les dimanches avec Lamal à partir de 20h.
Très bonne soirée à l'écoute de la Hip-Hop Soul Radio, c'est Lamal El Pistolero pour l'Octogone. L'Octogone show, c'est tous les dimanches à partir de 20h. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Cynic, l'un des plus grands rappeurs, l'un des plus grands artistes de tous les temps. Avec plus d'1 400 000 ventes en tout, c'est un rappeur qui a une plume magique, une plume dont lui seul en a le secret. Monsieur Cynic dans la maison, comment tu vas mon frérot?
Ça va mon frérot, quoi, cool.
Au calme et toi?
Ouais, ça va, on est là. Hein.
Ça fait plaisir que tu sois là en tout cas.
Bah écoute, c'est gentil, hein, merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté, c'est important.
Toujours.
Déjà, je voudrais savoir un peu qui est Cynic. Raconte-nous un peu ton parcours, comment il s'est lancé dans la musique et pourquoi.
Comment je me suis lancé dedans? Bah en fait, déjà très jeune, j'ai commencé à écrire des petits bouts de phrases. Mais vraiment très jeune, je sais pas.
Qui ne voulait rien dire?
Qui voulait absolument rien dire, exactement. Et après, un jour, j'ai un ami à moi qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai un poteau qui a des platines, un micro. Et en fait, c'est parti de là. À 16 ans, j'ai commencé à enregistrer des petites maquettes, des petits morceaux comme ça à l'arrache, tout ça avec des influences de l'époque. Et après, tu connais, hein, tu mets le pied dedans et après, ça y est, tu t'arrêtes plus. Tu montes ton groupe, tu montes ton studio, t'achètes ton matos. Après, tu développes ton truc, tu vois. Mais j'ai toujours été un fan des tout premiers trucs de rap, d'ailleurs, qui sont arrivés en France. J'ai vraiment attrapé le virus dès le départ. Et après, je te dis, après, tu commences à enregistrer tes morceaux. Là, tu rentres dans un autre game. C'est ton univers à toi que tu développes. C'est autre chose. Et voilà, comme ça, tout doucement.
Petit à petit, comme on dit, Nixie fait son lit. Mais moi, je voulais savoir un peu ton parcours pas musical. Comment Cynic a grandi? Comment il a vécu? Est-ce que c'est une personne qui a vécu aisément ou pas du tout?
Non.
Et où? Dans le 9-1, les Ulysses, à mon avis.
Ouais, les Ulysses. Quartier des Hautes Bergères. Non, enfance à la fois difficile parce que pas d'oseille et en même temps joyeuse parce que on était tous au final dans le même délire, tu vois. Donc tu te rends pas spécialement compte des différences sociales, des différences d'argent, etc. On avait tous pas d'argent en fait, donc quelque part on s'amusait tous entre nous. Et comme beaucoup de jeunes de quartier, tu vois, moi je suis vraiment parti au charbon. Il y a beaucoup de, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui s'inventent un peu des vies de voyous, de mecs qui ont fait beaucoup de conneries, etc. Moi, j'en ai fait énormément. J'en ai fait très, très jeune. J'ai commencé très, très jeune. Et puis après, bah, c'est un peu comme dans la musique, hein. Après, tu grimpes petit à petit dans tes conneries, dans tes ambitions. Et voilà. Et après, bah, ça m'a joué des tours. Mais en même temps, ça m'a fait beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Tu vois, bon, ça m'a servi au final après musicalement. Donc voilà, c'est pas plus mal.
Est-ce que, justement, tu fais bien de parler de ça, parce que c'est important, des conneries. Tu parlais des conneries. Est-ce que quand on est blanc dans un quartier, eh ben on est obligé d'en faire deux fois plus pour se faire respecter?
Non, sincèrement, moi, je te dis la vérité. Je suis dans une ville où il y a aucune différence de... Il n'y a pas de clan, en fait, au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'aux Ulysses, tu peux le demander à tous ceux que tu croiseras et ils t'en parleront. Chez nous, il n'y a pas ces trucs-là, en fait. Chez nous, tu vois des blancs traîner avec des renois, qui traînent avec des rebeux. Tout le monde, en fait, nous, c'est plus par quartier que par couleur. Tu vois, donc il n'y avait pas ce complexe. On m'a jamais dit t'es un blanc. Je vivais dans le même quartier que tout le monde. Je te dis, j'ai même des potos à moi, des renois, des rebeux qui étaient, je pense, un peu plus aisés que moi. Donc je faisais partie vraiment de la classe sociale d'en bas et il n'y avait pas besoin de le crier sur tous les toits. Je pense que les mecs qui ont besoin de faire ça, c'est des mecs qui ont un vécu assez aisé et qui au final veulent se mettre un peu au niveau des potos du quartier, etc. Moi j'étais dedans déjà dès le départ. Dans ce quartier, j'y suis arrivé à 4 ans. Et au final, tu sais, t'as pas besoin de tricher, t'as pas besoin de t'inventer une vie parce que les gens voient bien que, bah, au final, t'es dans le même bateau que tout le monde, tu vis la même chose, t'as les mêmes baskets pourries, t'as les mêmes besoins, t'as les mêmes galères.
Et du coup, j'ai jamais. T'as les mêmes couilles aussi que
ouais,
les autres aussi.
Ouais, non, mais c'est pour de vrai, hein, sincèrement, je te dis, c'est une des particularités de ma ville, c'est que voilà, nous, on se range pas par couleur, on se range par quartier.
C'est important. On continue sur ton parcours, voilà, Cynic rentre dans la musique, et ça devient quand même. Comment tu vis, cette haisse un peu, on va dire. Et là, ça commence à t'entrevoir la lumière.
Ouais, mais là, t'as fait un bond en avant de fou, tu vois. Ouais, parce que entre le début où j'enregistre mes premières compiles, mes tout premiers morceaux, etc., j'ai 16 ans. Et le début où je commence à gagner de l'argent, parce que c'est ça que tu veux dire, c'est le premier album, c'est 25 ans, tu vois. Donc, entre-temps, il y a eu 9 piges de désert, tu vois. Donc,
C'est et pas... comment ça se passe alors ces 9 piges de désert?
Bah pareil en fait, c'est ce que je te disais, c'est que tu t'en rends pas réellement compte parce que nous on est des passionnés avant tout, tu vois. Et en vrai, d'aller rapper dans une cave pour faire une compile qui va sortir à 200 exemplaires, en vrai nous on est content de le faire à ce moment-là, tu vois. On se dit voilà, c'est quelque chose de plus, on avance. J'ai fait énormément de petits projets, énormément de concerts super ghetto dans des coins mais vraiment très 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 chauds.
Là où les rappeurs ne mettaient pas les yeux.
Ouais mais
non là des petites rêves de temps en temps.
Ouais, je vois.
Quand tu vas en parler, on a. Non c'est parce que j'écoutais, j'écoutais beaucoup.
Bah écoute, j'écoutais beaucoup. C'est gentil.
Donc puis... j'écoute encore. Hein. J'écoutais d'ailleurs le nouveau projet là. Il est magnifique. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler.
Vas-y. Ouais,
dans le troisième round. Le projet Nixi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc allez l'écouter, allez le télécharger. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Ouais, non, mais du coup, je vais pas te mentir, je sais plus ce que je disais.
On était à l'étape traversée du désert.
Ouais, la traversée du désert, bah voilà, je te dis. En fait, moi, j'ai vécu ça comme une formation, comme un mec qui part en CAP. Et voilà, il y a eu des longues années comme ça où on savait qu'il n'y avait rien. Mais petit à petit, on faisait un pas de plus tous les jours. On avançait, on a sorti notre première mixtape, on s'est un peu professionnalisé, on a acheté notre matos, notre truc. Et en vrai, il n'y avait pas d'argent, mais tous les jours, on avait l'impression d'avancer un petit peu. Et rien que ça nous suffisait. Moi, j'ai jamais voulu être rappeur jusqu'à l'âge de 24, 25 ans, où là, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Mais quand je faisais ça, je le faisais par passion, parce que je suis un mec qui aime écrire. J'ai toujours aimé ce que je faisais, j'ai toujours aimé écouter mes potos, j'ai toujours aimé l'ambiance studio, collective, nocturne, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, moi, ça me suffisait déjà, en vrai. S'il y avait rien eu au bout, j'aurais quand même été content parce que ça m'a occupé, ça m'a sorti aussi du quartier à une époque, ça m'a fait voyager, ça m'a permis en vrai plein de choses bénéfiques, même s'il n'y avait pas encore l'oseille à ce moment-là. L'oseille, comme je te l'ai dit, il arrive vraiment, vraiment avec le premier street CD, le premier street CD et le premier album surtout, tu vois. Mmh. Et là, c'est vrai que là, c'est autre chose, tu vois.
Avant de parler d'argent, comment tu vis le buzz? Parce que avant l'argent, comme tu me disais, quand même, pour faire de l'argent, il faut quand même un certain buzz. Donc t'arrives, les gens ils commencent à parler de cynique, malsain l'assassin, etc. Comment toi tu le vis?
En fait, ça s'est fait tellement progressivement que c'est pas comme si, tu vois, du jour au lendemain, j'avais envoyé un morceau, le morceau il avait décollé de ouf, et là, du jour au lendemain, tu changes de statut. Moi, il y a eu plein de petites étapes comme ça. J'ai fait Panam All Star, où j'étais encore ultra jeune, j'étais d'ailleurs le moins connu je pense de tout le morceau au moment où je le fais. J'ai fait le morceau avec Lino sur EFD sur Mission Suicide, tu vois. Et moi j'ai vécu ces trucs là comme des tremplins à chaque fois, en fait, tu vois. À chaque fois je me suis dit là je sens que ça prend de plus en plus. Donc c'est un buzz qui est arrivé au fur et à mesure comme ça, mais je l'aurais moins bien vécu si du jour au lendemain, je te dis, j'avais fait un gros morceau qui avait pété et là ton statut il change comme ça d'une nuit à l'autre. Je l'aurais moins bien vécu. Moi, ça a été vachement, vachement progressif parce que c'était à coup de compile, à coup de mixtape, à coup de grossesse, à coup de kickage, etc. Et c'est comme ça, entre guillemets, que déjà, je me suis fait mon nom chez moi. Après, de toute façon, c'est le parcours de tout le monde. Tu te fais ton nom dans ta ville, après, dans ton département. Et après, tu t'exportes un peu. Tu vas à Paname et puis tu commences à voir que t'es connu dans le 95, dans les autres départements. Déjà, rien que...
Dans le 9-4.
Ouais, bah, moi, ça me... Enfin, 9-4, c'est un département voisin, tu vois. Donc, j'ai posé énormément aussi dans le 9-4, mais... Moi, c'est ça, en fait, qui m'intéressait et qui me surprenait toujours, c'est que j'ai senti progressivement qu'il y avait un truc qui était en train de prendre. Mais c'était tellement progressif que, voilà, j'ai pas du tout pété les plombs, c'était normal, en fait, tu vois.
Comme tu disais, en fait, petit à petit, et ben après, tu t'as pas vu les choses arriver. Et pour toi, c'était normal un peu. Ça venait crescendo et.
Ouais, parce qu'on bossait, parce qu'on a bossé. Et puis je pense qu'on a été honnête, on a été sincère. Ce qu'on faisait, on le faisait parce qu'on aimait ce qu'on faisait. Et je pense que les gens, ces trucs-là, ils les ressentent, tu vois. Ils sentent que voilà, ta démarche, elle est sincère, que t'es pas un mec qui s'invente une vie. Que si tu parles de manque d'argent, c'est parce que tu l'as vécu. Que si tu parles de grosses bagarres, c'est parce que tu les as faites. Que tous ces trucs-là, en fait, on les a vraiment vécu. Et je pense vraiment que les gens l'ont ressenti, ce truc-là, tu vois.
La sincérité.
Toujours.
Et après, voilà, on va sauter quand même des étapes parce que sinon, il va me dire, ouais, ça fait 17 minutes, ça fait 15 minutes, etc. L'apothéose, on va dire, les ventes de CD, tout marche. Tout va bien, Cynique en tête des ventes, Cynique numéro uno.
Ouais.
Comment déjà tu réalises le parcours? Est-ce que déjà tu réalises un peu le parcours que t'as fait?
Ouais, à ce moment-là, ouais. En fait, moi j'ai sorti un street album en 2004 et ça a été vraiment pour moi le truc qui a tout déclenché où là je peux pas faire de la fausse modestie. J'ai senti qu'il se passait quelque chose parce que déjà il y a des gros artistes qui ont commencé à me contacter. Parce que je vois que ça parle maison de disques, parce que je vais faire des concerts dans des coins éclatés dans le 91 et on me dit dans la salle il y a telle maison de disques, un tel, donc je vois que je commence à être suivi. là, je sens qu'il se passe réellement quelque chose. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ouais, en vrai, je pense qu'il y a moyen de, entre guillemets, de devenir un rappeur et de faire quelque chose de sérieux. Mais avant ça, moi, je suis encore en mode à la rigolade. C'est un plaisir. C'est, tu vois, ça m'occupe, ça me distrait, c'est cool, tu vois. Mais après, ouais, enfin, ces années-là, là, dont tu parles, le premier album et tout, là, c'est un vrai changement, frérot, parce que ta vie, elle change. Parce que dans ton immeuble, t'es reconnu par les voisins, parce que tu sens que t'as changé de statut, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de discret, j'allais acheter des skate-bas à Paris, ça faisait des émeutes, des vraies émeutes, des 200 personnes derrière toi, ça hurle, ça crie, il y a même des moments où moi, je suis pas peureux, mais je me suis dit, waouh, c'est de la folie, en fait, tu vois ce que je veux dire, et ces trucs-là, c'est pas, pour moi, en tout cas, c'était pas évident à vivre, parce que c'est pas le truc que je préfère le plus. Tu vois, si j'avais pu faire de la musique et, entre guillemets, ne pas avoir cet aspect un peu, tu sais, vraiment l'euphorie qui va autour des artistes, etc., moi, j'aurais kiffé. Après, je l'ai pris, j'ai fait le choix de mettre ma tête dans des clips, machin, maintenant, faut l'assumer, ce truc-là. Mais tu sens qu'il y a un gros bordel autour de toi, financièrement, bah, t'as plus de galère, donc t'as plus cette carte du mec qui est en galère, tu peux plus faire le mec qui a plus d'oseille, ça se voit, c'est même toi, tu t'es refait de partout, voilà, tu sais, c'est un changement de vie qui est radical et qui est pas, enfin, malgré ce qu'on croit, qui est pas toujours facile à vivre.
C'est là où tu t'es bien adapté, je parle dans tes musiques, c'est que en vrai, on ressent plus après la reste quand tu rappes. Parce que tout à l'heure, je parlais de plume, t'as une belle plume, c'est pour ça. On ressent plus la reste, mais on ressent que tu te mets en situation des gens qui sont en reste.
Ouais.
Comme dans Autodestruction, par exemple, dans ton titre, où t'arrives à avoir ce recul, tu dis plus que c'est toi, mais en gros, tu te mets dans la peau d'une femme de ménage, tu te mets dans la peau de truc. Comment t'arrives à switcher? Comment t'as réussi à switcher, à passer ce cap?
Franchement, ça s'est fait naturellement, mais je savais une chose, c'est que je pouvais plus, avec ce qu'on avait gagné, par exemple, sur le premier album, faire le mec, là, j'aurais eu l'impression, tu vois, je te parlais de sincérité tout à l'heure, là, j'aurais eu l'impression de me foutre de la gueule des gens. Moi, j'ai vraiment connu les années où, sans les poches vides, etc., et le jour où tu fais des albums, tu prends des 300, des 400, des 500 balles, tu peux pas faire le mec après qui a le même discours et qui fait encore le mec en galère parce que ça rend crédible ou je sais pas quoi, tu vois. Donc après, progressivement, j'ai commencé à inventer des personnages comme ça et comme tu l'as vachement bien décrit, j'ai commencé à relater, en fait, la vie des gens qui étaient encore là-dedans plus qu'à raconter ma vie à moi de mec en galère, parce que je te dis, je l'étais plus, j'avais aucune raison de continuer à faire le mec qui était en chien. On savait tout le monde savait ce qu'on avait vendu, tout le monde savait à peu près ce qu'on avait pris, tout le monde voyait bien les tournées qu'on faisait, les festivals, etc. Donc je pouvais plus rester dans ce registre là en fait, tu vois.
C'est tout à ton honneur parce que tu l'as super bien fait. Tu dis on sait tous combien on a pris, combien t'avais pris, moi je sais pas combien t'avais pris.
Je te dis, un premier album, ça doit être un truc genre 300, 400 balles au total sur les ventes. Et après, j'ai pas compté parce qu'on a fait beaucoup de festivals, etc. Mais nous, les cachets de l'époque, en termes de date, ils étaient largement inférieurs à ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, tu vois. Si tu compares à l'échelle de nos parents, c'est quand même énorme, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, ouais, je trouve qu'avec du recul, c'est vrai que c'est encore un autre délire, etc.
Bah, même maintenant, 400 balles, c'est quand même énorme.
Ouais, c'est bien. Non, mais moi, je te parle plus des dates. Sur les dates, tu vois, quand j'entends, par exemple, des showcases à 20, 30, 50, 100 balles, à l'époque, sincèrement, je crois qu'à part Mélanie, personne pouvait revendiquer prendre autant sur tu faisais un concert à 20 balles, c'était extrêmement bien payé. Tu vois, aujourd'hui, 20 balles des artistes pas moyens mais pas les plus connus,
sont pas renommés,
ils arrivent à les faire en showcase, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis les prix ont changé au niveau des comment dire, des concerts.
C'est comme dans le foot, hein, les transferts, hein, au niveau des transferts.
Ouais, voilà, de toute façon, plus on avance dans la société et plus tu vois, il y a de plus en plus d'argent, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le stream, ça a tout changé. Donc un artiste qui va signer, si c'est un gros streamer, il va arriver avec des grosses munitions et il peut revendiquer plusieurs millions d'euros. Nous, ça parlait pas encore en millions d'euros. Ça parlait en centaines de milliers d'euros, mais ce qui est déjà, je te dis, à l'échelle de nos parents, c'est déjà énorme, tu vois.
C'était un truc de ouf. Donc, tu gagnes tout cet argent, etc. Déjà, tu fais quoi avec cet argent? La première fois que tu touches ton gros chèque, tout ça, qu'est-ce que tu fais?
J'achète une voiture. Première chose, parce que j'étais encore jusqu'à peu de temps, j'étais encore dans le RER, traumé, tu vois. Donc premier truc que je fais, j'achète une Gove et après j'achète un appart. Voilà, moi j'avais des mecs en fait qui m'ont tout de suite énormément bien conseillé, qui m'ont mis les dangers en fait de ce truc-là, c'est-à-dire les impôts, les erreurs que beaucoup d'artistes font, tu vois. Donc moi j'ai vraiment été bien briefé, bien programmé et tout de suite investir. Donc j'ai acheté un appart direct, voilà.
C'est important, voilà. Il y a toujours des messages dans mes émissions, c'est pour ça. Voilà, faites attention. Si vous touchez des gros billets ou autres, n'oubliez pas la sécurité. Toujours. C'est important. Voilà. Et d'être bien conseillé, de s'entourer d'une bonne équipe.
Ouais, c'est pour ça que je te voilà, je leur rends hommage parce que je te dis, il y a des mecs qui te préviennent pas et puis enfin, je pense que tu sais comment ça se passe. T'es un jeune artiste, t'as jamais été imposable de ta vie, du jour au lendemain, t'es passé de 0 à 500 balles sur le compte et si tu fais pas attention, tu vas les cramer. L'année d'après, on va te demander des impôts sur ces choses-là. Si tu les as pas, t'as vu, tu sais tout de suite t'es dans le rouge, tu vois. Donc moi j'ai été, je te dis, j'ai été plutôt bien formé là-dessus. Et quoi qu'il arrive, j'ai toujours été quelqu'un de raisonnable. C'est aussi dû au passé qu'on a eu. C'est quand t'as rien eu, le jour où t'as tout, du jour au lendemain, t'as toujours ce réflexe de se dire « je peux ne plus rien avoir ». Donc je fais quand même attention, tu vois, je vis ça un peu comme une chance de ouf. Et je me dis « bon, faut se faire plaisir, je me suis fait plaisir, j'ai voyagé, etc. Je vais, j'ai pas fait que ça non plus, mais j'ai coffré et je te dis « j'ai investi, j'ai donné, enfin bref, je me suis fait plaisir ».
La maturité, comme dans tes textes.
Ouais, mais déjà à l'époque, hein, enfin, je te parle de ça, j'avais que 25 ans. Que 25 ans et j'aurais pu cramer, tu vois, enfin, péter les plombs. Franchement, il y a de quoi vraiment péter les plombs. Mais je te dis, j'ai eu cette chance d'être bien entouré. C'est une vraie chance parce que, voilà, tout le monde ne l'est pas forcément.
Important. Là, on va parler maintenant. C'est bien, ok, Cynic est au top, magnifique, tout va bien, tout nanani. Clash avec Booba.
Ouais.
Oh! Beaucoup de gens disent que c'est par rapport à ce clash-là que ta carrière s'est décimée, on va dire.
Moi, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai une réponse toute simple à ça, frérot. T'as vu, quand tu dis ce genre de choses, après, il faut sortir les dates. Et les dates, elles parlent plus que toute autre chose. Ce clash, il est sorti en février 2007. Et moi, la même année, en décembre 2007, je sors un album qui fait double disque d'or. L'été d'après, je fais le tube de l'été avec Ryan B où on fait Bienvenue chez les Bilka.
Excuse-moi de te couper, c'est la fin du premier round.
Ok.
On se retrouve tout de suite avec Cynic pour le deuxième round. Cynic, on parlait, je te posais la question tout à l'heure, je te disais, beaucoup disent que c'est dû au clash avec Booba, la descente en gros de ta carrière.
Ouais.
Et tu me disais que.
Ben en fait déjà le premier truc que je tiens à dire c'est que c'est lui en fait qui a lancé ce délire là. Ça c'est souvent le comportement d'un mec qui a perdu le clash justement, c'est de dire j'ai gagné, de le crier haut et fort en sachant que les fans vont forcément suivre et lancer cette tendance là. Et après je te donnais des dates en fait, je te disais quand tu sors ce genre d'infos là, faut analyser ce qui s'est passé derrière en fait. Moi 10 mois après la sortie de ce clash, je sors un album, l'album il fait double disque d'or, il y a un tube de ouf avec James Blunt. Je fais ma plus belle tournée, je fais mon zénith, je le remplis facilement. L'été d'après, donc l'été 2018, on fait Bienvenue chez les Bilka, qui est un des tubes de l'été 2018. Le morceau, il a tourné quasiment 6 mois en radio. Et au final, on se casse la gueule fin 2009, tu vois. Donc, à quelques mois après, en gros, 3 ans après, tu vois. Donc, si c'est un clash, c'est un clash à retardement. Après, je te dis, c'est la règle du jeu, t'as vu. Il y a une grosse part de bluff aussi dans le clash. C'est du trash talk, chacun défend sa barque. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que quand tu gagnes un clash, tu peux pas être le perdant dans la durée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand tu fais ce genre de truc-là, et c'est ce que j'ai regretté avec le temps, tu divises les gens, en fait. Tu sais, moi, à l'époque, j'entendais beaucoup de gens qui me disaient, ouais, c'est pour le business. En fait, c'est vraiment stupide de dire ça parce que quand tu fais ce genre de clash avec des gros artistes comme Booba, au final, tu divises les gens, tu leur demandes de choisir entre toi et lui, alors qu'avant, en fait, les fans, ils pouvaient cohabiter tranquillement et t'avais tout à fait le droit de dire, moi, j'aime à la fois Booba et à la fois Cynic, par exemple, tu vois. Et là, en fait, c'est comme si tu leur posais une question et forcément, je pense que des deux côtés, tu vois, ça y a joué parce que il y a un truc qu'on a oublié de lui dire à lui, c'est que l'album qui sort après ce clash-là, c'est 09 et c'est celui qui a le moins bien marché aussi. Et bizarrement, j'ai trouvé que très peu de gens lui avaient dit « Ah, t'as vu, c'est bizarre quand même, ton pire album ». On n'a pas fait le lien pour lui, mais on l'a fait pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça malhonnête, mais encore une fois, je te dis, c'est la règle du jeu. Et comme je te dis, les dates, elles parlent. Si vraiment ce clash-là, il m'avait terminé, on n'aurait pas fait l'album qu'on a fait 10 mois après. On n'aurait pas fait un tube en 2008, l'année d'après, on n'aurait pas rempli le Zénith, on n'aurait pas fait tous ces trucs-là, tu vois. Donc après, c'est la règle du jeu, et puis les gens, après, de toute façon, tu sais quoi, tu pourras t'expliquer pendant 20 ans, frérot, chacun restera sur sa position, tu vois.
Pourquoi, je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi tu parlais de surf, etc. Enfin, surf, continuer à faire du trash talking, c'est bien ça en anglais ? J'arrive ouais, à parler, ouais, j'arrive. Parce que moi et mon anglais, laisse tomber, c'est compliqué. Pourquoi t'as jamais sorti Carton Rouge ?
Parce qu'en fait, justement, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de ce truc-là, en fait, nous, on s'est interrogé et en fait, on a très vite compris que c'était un truc dans lequel tu pouvais t'enliser. Et je pense que l'histoire m'a donné raison, puisqu'il y a d'autres artistes qui, après, sont rentrés dans ce délire-là. Et au final, après, tu t'en sors jamais, tu vois. Et moi, ce qui me cassait la tête, c'était qu'on résume ma carrière à un simple morceau, en fait, tu vois. Et moi, je voulais continuer à avancer. Et puis, je te le dis, en toute honnêteté, je j'ai pas besoin de l'avis des gens pour savoir si j'ai gagné des battles. J'en ai fait, j'ai fait des vrais battles. Moi, je te parle des trucs face à des mecs qui ont écrit un couplet sur toi pendant 4 mois. Tu vois, donc je sais c'est quoi l'école du clash, l'école du vrai battle. Et pour moi, j'avais gagné, tu vois. Donc en vrai, je m'en battais les couilles de continuer à insister et tout. Et un autre truc que j'ai dit à l'époque et qui est vrai, c'est que je savais qu'il allait répondre, bien qu'il ait dit qu'il le ferait pas. Il a dit machin à la télé, ouais, on s'en bat les couilles. Au final, 15 jours après, il a répondu. Donc ça veut dire que déjà, le morceau a eu de l'impact sur lui. Et au final, tu vois, je la réponse, je m'attendais à quelque chose de... Enfin, je connais son niveau, on le connaît tous. Et je m'attendais à quelque chose de costaud, en fait. Et comme je te l'ai dit, moi, je viens de l'école des battles où des mecs écrivaient des couplets sur toi. Et chaque jour, ils enlevaient une ligne pour en mettre une plus forte. Tu vois ce que je veux dire? Pendant 4 mois, le mec, il a écrit un 16 sur toi. Et quand tu vois des trucs, tu cours vite comme Thierry Henry, tout ça. Enfin, ça, tu fais dégainer ton style aux Ulysses, tu perds. Tu vois ce que je veux dire? Le jury, il te dégage direct. Mm. Donc moi, j'avais l'impression d'avoir gagné d'un
point de vue... Pour toi, il était pas au niveau, le clash qu'il avait fait.
Ah, frérot, va lire les commentaires, même encore aujourd'hui. Même les gens qui le suivaient, lui... Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'avéré. Quand, pour moi, t'as gagné le battle. L'erreur, en fait, que j'ai faite, c'est de croire que c'était comme les battles que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un morceau, le plus fort, il va gagner. Moi, j'ai gagné, mais au final, après, j'ai compris que c'était plus un truc... où il fallait broder, fallait s'inventer un truc, etc. Et c'est peut-être là où il a été meilleur. Il faut avoir l'honnêteté aussi de le dire. C'est que il a peut-être mieux rebondi après par la suite que moi. Il a su se réinventer, etc. Ça, j'ai aucun problème à le dire. Mais pour moi, voilà, tu fais un clash, il y a un gagnant, il y a un perdant. Moi, j'étais gagnant. La réponse, elle était caillou. Et du coup, on s'est dit, ça sert à rien au final d'en rajouter parce que après, ça va être quoi? Ça va être encore une réponse, de la réponse, de la réponse. Et tout ce que t'as fait, tout ce que t'as construit, tout ce que t'as créé pendant toutes ces années, au final, ta carrière, elle se résume à 2-3 morceaux autour d'un mec, tu vois. Donc, c'est ce qu'on voulait pas. Et c'est, en gros, c'est le choix de la raison ou de la fierté, tu vois. Et c'est un choix très, très difficile. Je t'avoue qu'on s'est quand même cassé la tête de ouf. Et on a choisi la raison parce qu'on trouvait que c'était plus sage. Et je te dis, enfin, quand je vois ce qui s'est passé après, quelques années après avec d'autres, je me dis qu'on a bien fait de pas s'enliser là-dedans, tu vois, et d'essayer de s'en sortir.
Si tu devais faire les choses différemment, est-ce que tu les aurais faites par rapport au clash, hein, je parle.
Sincèrement, non, j'aurais fait exactement la même chose. Juste, j'aurais pas dit tant que tu parles, on répond, parce qu'en fait, c'est beaucoup ça qu'on m'a reproché. C'est cette phrase-là qu'on m'a reproché, et c'est le seul truc que j'enlèverais, en fait. Parce que je te dis, je savais qu'il répondrait, mais vraiment, le truc que j'avais pas prévu, c'était que. Que la façon, enfin, je veux dire, en règle générale, on sait que le mec, c'est pas un clasheur, il en a fait avec d'autres mecs, et c'est, autant c'est un très bon artiste, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas un mec qui est impressionnant quand il fait du vrai clash, et c'est le seul truc que j'enlèverais au final, tu vois, mais après, enfin, les gens ont vite oublié ce qui s'était passé, le nombre de tacles qu'il nous avait mis, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec d'autres artistes d'ailleurs, tu vois, donc, on était juste les premiers de la liste, et à un moment, comme j'ai toujours dit, tu peux pas faire le mec qui voit pas, ou le mec qui entend pas, quand t'allumes ta télé, la méthode Koé à l'époque, qui était une des grosses émissions, tu le vois, il est là, il s'en prend encore à toi, alors que t'as rien demandé à personne, à un moment, t'as vu, ça m'a chauffé la tête, et je me suis dit, bah, écoute, puisqu'il veut y aller, on va y aller, tu vois, et voilà, et c'est pour ça que je te dis, j'ai aucun regret par rapport à ça.
Tu disais tout à l'heure que les clashs, ça divisait les gens, enfin les fans plutôt, voilà, d'un truc. Mais dans ton titre, Balle perdue, d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter parce que pour moi, l'écriture est magique, l'écriture est magnifique. Et à chaque... je rigole parce qu'à chaque mesure, je rigolais, j'ai dit non, c'est un bâtard ce mec. Alors, c'est bien écrit, c'est bien fait, j'ai dit il est chaud. Ah non, tu m'as fait plaisir. Franchement, sur ce titre, Balle perdue, tu m'as fait plaisir. Bon.
Mais c'est différent, c'est pas le même genre de clash, tu vois. Là, à l'époque, faut resituer le contexte, avec Booba, c'était deux gros artistes. Là, en fait, je donne un avis général. Dans Balle perdue, c'est un truc sur plein de petits trucs qui me cassent la tête, c'est histoire de mettre des petits tacles, mais c'est plus taquin que l'envie de faire mal. Moi, je le vois pas vraiment comme du clash, sincèrement. C'est plus un truc où j'ai voulu taquiner un peu, montrer qu'on était toujours là et... Tu sais, moi, des clashs, j'en ai fait avec Dino sur mon album. J'ai participé à des battles. J'ai été jury à Rap Contenders. Il y a eu les clashs avec Booba. Il y en a eu avec d'autres. C'est-à-dire que, moi, pour moi, en fait, c'est la suite logique du truc, quoi. Je continue un peu aussi dans ma lancée. Et ça change de tous ces mecs qui se lèchent le cul en permanence. Et t'as vu, de cette politique de, ouais, c'est mon frérot. Alors que quand toi, t'es en coulisses, tu sais que les mecs, ils se mettent des bâtons dans les roues de fou malade. En vrai, tout le monde ne s'aime pas. Et moi, j'ai trouvé ça plus honnête de donner un avis sincère. Sans être dans la méchanceté gratuite, sans m'en prendre à la personne, juste sur le rendu artistique de ce que les gens y donnaient, que ce soit Gaston Bide ou que ce soit Rockin' Squad, tu vois, c'est sur l'artistique et je m'en prends pas à la personne directement. Donc c'est voilà, c'est plus un avis général en fait qu'un clash.
On va en parler, mais nous au quartier, on a fait pas mal de débats sur ce titre-là parce que le titre, il disait mais vous avez écouté comment il est lourd, il me disait ouais il est lourd, mais pourquoi il a pas tiré sur Booba alors que, en gros, c'est ce que les gens ils disent. Hein. Ils disent là, c'était des proies faciles soi-disant un peu.
Non mais
et là, comment tu l'as expliqué ?
Il y a pas de proies faciles. Tu vois, Gaston Bide, c'est un mec qui fait des millions d'entrées. Rockin' Squad, c'est un ancien. J'ai reçu là les messages de fans. Ouais, tu t'attaques aux anciens. Il y a jamais de clash facile en vrai. Tu vois.
Les fans, comment ils avaient des cannes ou...
Non. Ça c'est toi qui le dis, c'est pas moi, tu vois.
Ouais, mais moi ils savent, je suis un bâtard, c'est comme ça.
Ah bon bah ça va. Mais non, mais après t'as vu, tu connais. De toute façon, je te dis, on vit dans un monde.
Attaque Rockin' Squad.
Ouais, mais
il fallait pas. Il y a
ça,
que des pères
fourras. Mais toujours le même argument.
Il y a que des pères fourras dans.
Toujours le même argument. L'ancien, ouais, c'est un ancien, faut respecter. Bien sûr, moi j'ai toujours respecté les anciens, mais après j'ai le droit de dire qu'il y a un mec que je trouve archi surcoté, qui s'est inventé une vie pendant quasiment toute sa carrière, et que tu vois ce que je veux dire. J'ai
le droit de donner un avis aussi. Ça m'a tué parce que sur Rockin' Squad, tu dis tu parles. Tu parles beaucoup pour un bourgeois qui a vendu 28 cassettes. Eh, hey, j'étais mort.
Ah, mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis, surcoté. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et si j'en ai parlé, c'est aussi parce qu'il a fait une interview où il a parlé de moi. Donc, moi j'estime que c'est la règle. Tu parles de moi, t'es un peu désagréable, etc. Bah, écoute, faut s'attendre aussi à ce que les gens donnent un avis sur toi. C'est la règle du jeu, y a rien de méchant.
Mais il a vraiment vendu 28 cassettes?
32. J'en avais oublié quelques-uns. Non, mais je te jure, le but, c'est pas... Je veux pas m'acharner sur lui, frérot, mais à un moment, voilà. Moi, c'est le personnage, c'est tout ce qu'on a créé autour de lui, alors que c'est un mec qui était là dans les années 90. Si tu le places aujourd'hui dans les années 2000, jamais de sa vie, il existe. Tout le monde connaît son parcours et j'ai pas envie de lui reprocher d'avoir grandi dans un milieu aisé. Ouais. Mais quand tu grandis dans ce milieu-là, tu peux pas faire le mec aussi qui a jamais rien eu. Tu vois ce que je veux dire?
Comme tu disais tout à l'heure sur
voilà,
ton enfance,
bah c'est
etc.
tout ce que je voulais pas être, moi. Voilà, tu vois. Donc moi, j'étais légitime parce que je pouvais en parler, je l'ai vécu. Mais si j'avais eu la chance de grandir dans un pavillon, d'avoir des parents aisés, etc., j'aurais pas eu ce discours dans ma musique parce que c'est ça qui est pas honnête, en fait.
Une fois que t'as pris les sous, et ben, t'avais plus ce discours-là.
Ouais.
Le mec en reste,
mais,
tout ça. Donc,
c'est ce qu'on se disait tout à l'heure.
Tu vois. Il y a sur bon, tu tires aussi sur Franck Gaston Bide, Mila, Kinvé. J'ai bien aimé la face de Mila aussi.
Ouais.
Non, t'es un bâtard. Non, franchement, non, dans les clashs, vraiment, non. Franchement, il y en a pas un qui est plus fort que toi, je pense. Hein. Je pense vraiment. Gentil. Quand j'écoute, et vraiment, non. À chaque punch, je dis mais il est fou. Tu tires sur Kenji, Kinvé, Angel. Ouais, j'ai bien aimé le truc d'Angel.
C'est parce pareil, que comme t'as dit, je trouve ça honnête.
Exactement. Franchement,
c'est honnête quand tu te fais le porte-parole de. En plus, tu vois, c'est des artistes qui nous foutent dans la merde, nous les mecs, parce que tout le temps à pointer du doigt avec tout ce qui s'est passé, MeToo, les trucs, la tendance un peu bizarre. Au final, des fois, tu dis putain, si on me regarde de travers, j'ai rien fait de spécial. Je suis un mec, donc forcément, je suis un violeur potentiel. Tu vois, moi c'est. Et quand ton propre frère, il est dans la sauce, là, on t'a pas entendu faire une chanson, on t'a pas entendu communiquer. Alors, tu l'as peut-être dit, tu vois, du bout des lèvres, etc. Mais je trouve que tu faisais beaucoup plus de bruit quand il s'agissait de faire la meuf qui défend les femmes violées. Et encore une fois, ce combat-là, il est légitime, tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Qu'il y ait des gens qui parlent de ça, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai des filles, tout ça, c'est quelque chose qui me concerne. Mais quand t'es le porte-parole de quelque chose et que ça touche quelqu'un de ta famille, si t'es honnête, t'en parles de la même manière d'un côté ou de l'autre. Et en gros, moi, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est pour ça que je dis, il y a les mythos. Tu vois, parce que en vrai, de vrai, bah, c'est comme ça que je résume le truc, tu vois. Et encore une fois, ça a rien de personnel, tu vois. C'est une meuf, je l'ai jamais vue, mais je donne un avis par rapport à des choses qui sont avérées.
Là où je te rejoins, où j'ai kiffé, parce que je dis toujours, à ma femme ou même des fois à mes amis, je dis, si demain, mon frère, c'est une balance, niquez-le. Ouais. Niquez-le, c'est mon frère, je l'aime.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand t'as un combat, ton combat, c'est le même pour tout le monde.
Exactement.
Ce que je veux dire.
Même si ça touche vraiment quelqu'un.
Il n'y a pas de variation dans le combat. Soit t'es dans le combat et tu l'es tout le temps, soit tu l'es pas. Mais tu peux pas te faire porte-parole de quelque chose et au moment où toi ça te touche, t'es silencieuse, on t'entend pas, tu le dis une fois, ouais, c'était pas bien, machin. Alors que t'as fait des morceaux, t'as gagné de l'argent sur ce combat-là, est-ce que t'as reversé quelque chose aux femmes qui ont vécu, on sait pas, tu vois. Au final, toi, tu t'es enrichi en te ramenant comme le porte-drapeau d'un truc qui touche énormément de femmes. Et tu vois, déjà rien que faire du business là-dessus, je trouve ça.
Et à partir de ce moment-là, on peut douter de ton honnêteté, alors.
C'est pour ça, et c'est ce que j'ai voulu souligner. Je te dis, soit tu l'es à fond, soit tu l'es pas. Mais tu peux pas être au milieu et quand ça te touche, toi, tu fais silence radio, tu vois, c'est pas possible.
Je parle beaucoup de ce titre-là. Le projet Nixi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc va l'écouter, va le télécharger. Le projet Balles Perdues, le titre Balles Perdues est magique et magnifique. Allez l'écouter, allez streamer parce que franchement, il y a grave des trucs à dire. Tu tires aussi? Ouais, parce que c'est comme ça. T'as, je sais pas combien t'avais de balles ce jour-là dans ton calibre, mais c'est terrible. Tu tires sur Vita et Slimane aussi. Tu dis, tu casses les couilles, on t'a trop vu comme Vita et Slimane. J'ai dit, mais c'est un génie. Parce que tout le monde se le dit.
Ben oui.
Ils sont partout, on les voit trop. Pourtant, ils sont forts. C'est ça, tu veux pas dire qu'ils ont pas fort ou quoi.
Non,
ils sont bons, mais on les voit trop.
Mais voilà, à un moment là, sur médiatisation, t'allumes n'importe quelle chaîne, tu les vois omniprésents partout, etc. Donc moi, après, comme tout le monde, à un moment, ça m'a saoulé, tu vois. Et je vais faire une petite phase là-dessus, encore une fois, tu vois. Y a rien de méchant, mais c'est bien de le souligner parce que. Si tu regardes un peu les commentaires sur le net, etc., c'est ce qui revient le plus souvent, tu vois. Ce duo-là, moi, je trouve qu'à la base, il est bon. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Leur album, il est réussi. Il y a même des bons morceaux, etc. Mais au bout d'un moment, ça casse les couilles, frérot. T'as vu, t'allumes n'importe quelle chaîne, n'importe quelle émission, n'importe quel truc, tu les vois. Et du coup, ça, c'est une erreur qui devrait corriger, je pense, tu vois.
Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, moi, j'étais dans la musique, j'écoutais Cynic, Jams. Il y avait Vita, c'était ta sauce, non?
Mais après, moi c'est ce que je te dis, moi je suis honnête dans mon combat. Ça veut dire, si tu vois, c'est pas parce qu'on a fait des morceaux il y a 15 ans. Après, je vais être honnête avec toi, à titre personnel, elle m'a jamais donné l'heure. C'est-à-dire que moi, je suis un des premiers qui l'a fait poser sur mon album. D'ailleurs, peut-être même le premier, puisque c'était avant Confession
Nocturne. Oui, je me souviens.
Et on avait fait Ne Dis Jamais, je crois.
Ne Dis Jamais.
En 2006. Et je vais te dire une vérité. J'aime pas les artistes qui se servent du rap pour aller sur énergie et après, une fois qu'ils y sont, ils sont dans aux enfoirés, ils te donnent plus l'heure. Et quand je dis donner plus l'heure, c'est pas m'inviter, me faire des morceaux ou quoi, c'est juste le petit bonjour de temps en temps. Ah tiens, t'as une fille, comment elle va, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont servis du rap pour aller à l'échelle au-dessus et une fois qu'ils y sont allés, aujourd'hui c'est impossible de leur demander un feat. Tu vois ce que je veux dire, c'est impossible parce que t'as toujours un mec dans leur équipe qui va te dire ouais mais t'as vu c'est du rap de rue machin. Ils vont vivre ça comme une régression alors que ces gens-là sont nés dans notre monde. Tu vois ce que je veux dire, et ça c'est quelque chose que moi à titre personnel j'ai pas aimé par rapport à elle, c'est que elle s'est servie de pas mal d'artistes pour grimper à chaque fois et une fois que t'es tout en haut tu fais les enfoirés, tu fais les trucs et nous tu nous donnes plus l'heure, mais même pas le bonjour, tu vois. Moi quand je te dis donner l'heure, c'est pas faire des morceaux, c'est juste avoir le respect de se dire voilà, on a commencé avec ces gens là moi je suis le premier qui l'a fait poser sur un album et de voir que ces gens là se servent du rap, c'est un truc que j'ai du mal à digérer en fait. Mais si j'ai parlé de ça et de Vita et Slimane, ça a rien à voir avec ça. Là je te parle vraiment à titre personnel, parce que effectivement, comme tu l'as dit, je la connais bien et à une époque, on faisait des sons ensemble. Voilà. Mais si aujourd'hui je lui demandais un feat, je suis sûr et certain que j'aurais aucune réponse. Vu, stop. Tu vois ce que je veux dire?
Tu penses que t'aurais un vu?
Ah, mais c'est sûr et certain, frérot. Parce que même si elle veut le faire, t'as toujours un book dans son équipe qui va lui dire, mais qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec lui? C'est un ancien, il fait du rap de Zoulou. Tu vois,
c'est pour l'image, c'est pas bon.
Bah, pour son image, c'est aujourd'hui, c'est tout ce qu'il cherche pas. Et c'est pour ça que je te dis, je trouve que cette démarche, elle est malhonnête. Parce que si t'es quelqu'un d'honnête et d'intègre, enfin, moi, je suis un mec qui a de la mémoire. Tu m'as rendu service il y a 15 ans. Si 15 ans après, je peux te renvoyer la balle, je le fais, mais avec grand plaisir. Jamais j'oublierai. Tu vois, et même des gens avec qui je m'entends pas bien, il y a des gens, j'ai la reconnaissance de me dire, ces gens-là, ils m'ont fait avancer. Ils m'ont tendu une main à un moment, etc. Et si je peux te la renvoyer, franchement, avec grand plaisir. Mais je te dis, il y a beaucoup de gens qui se sont servis du rap pour aller sur des radios comme Énergie. Et après, frérot, t'as vu, quand ils y sont, ils regardent plus personne. Et ça y est, ils sont dans un autre monde. Ils font la bise à à Patrick Bruel, à truc. Et toi, quand tu viens derrière en mode, ouais, alors ça dit quoi? Vu, frère, vu, rien de plus.
Ouais. Je veux plus rien avoir avec toi dans ce monde-là.
C'est pour ça,
merci,
c'est pour ça.
En gros, ils se sont servis de toi pour.
Exactement.
Pour truc, et merci, au revoir.
Et qui peut dire que ce que je dis, c'est faux, frère? C'est exactement ça. Si demain, n'importe quel rappeur un peu street, je te parle pas des rappeurs Bankable, les Gims, les trucs, etc. Je te parle des mecs comme moi, t'as vu, des mecs qui parlent de vraies choses, où il y a des gros mots, où ça revendique des choses, etc. Va leur demander un feat aujourd'hui, tu verras, frérot, personne va te répondre. Alors que nous, on était à la base de ce que tu étais, tu vois. Donc j'estime, à titre personnel et humain, que c'est de l'ingratitude pure et dure, tu vois.
T'étais quand même une personne qui remplissait des salles. Comme tu disais, t'as vendu des milliers de disques et millions même. Milliers. Oh, la malle, toi aussi. respecte les humains. Tu dis milliers. Non, c'est millions. Voilà. 1 400 000, on t'a dit. Voilà, direct. T'as vendu des millions d'albums. Et dans ton public, qui venait te voir dans les salles de concert, on voyait un mélange. Melting pot. C'est-à-dire, ça se dit melting pot. Ouais, melting pot, ça veut dire il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des KRA, il y avait des maîtresses d'école, il y avait. Comment tu l'expliques? Comment t'as réussi toi à toucher tous ces gens-là?
Parce que si t'écoutes mes albums, il y a des morceaux pour tout le monde au final. Je fais des morceaux de société qui peuvent parler à n'importe qui. Je fais des morceaux tristes à thème. Je fais des morceaux sur les enfants malades qui ont parlé par exemple à toutes les mamans. Tous les papas, qui j'ai reçu des milliers de messages dans ma vie juste avec le morceau sur les enfants malades, parce qu'il y a des gens qui, qui se l'approprient et qui me disent, moi j'ai connu ce truc là mon fils à une époque il était là-bas, tu nous as aidé à tenir le coup. Je fais beaucoup de morceaux comme ça, très très large. Je fais des morceaux comme Représailles qui sont des morceaux Kaira, donc ça va parler à la cité, tu vois. J'ai toujours essayé de pas m'enfermer dans un truc et d'être le mec qui fait uniquement des morceaux pour telle catégorie de personnes. Moi j'ai toujours vu le truc de façon très très large. Et je pense que les gens ils me le rendent bien, parce que t'as raison, quand tu regardes il y a qui sur scène, au final c'est quand moi je suis sur scène dans le public, c'est archi varié, tu vois.
Tout à l'heure on parlait de Vita, forcément Vita Jams. Est-ce que t'as des nouvelles de Jams?
Honnêtement non, très peu. Je sais juste sa situation actuelle. Après je vais pas le dévoiler parce que mais je sais où elle vit, je sais ce qu'elle fait, etc. Mais c'est très très lointain, quoi. Moi en tout cas directement j'ai plus de contact avec elle.
D'accord. Comment tu l'expliques ça?
C'est un choix qu'elle a fait, t'as vu. Après moi je suis pas réellement surpris de ça. Je sais qu'elle est partie à fond dans son truc et qu'elle a elle a vraiment coupé les ponts avec tout le monde, y compris les gens comme moi qui étaient très proches d'elle à une époque. C'est un choix, faut le respecter. Je sais que dans ce pays, c'est pas évident à comprendre, etc. Mais moi, qui la connais depuis très longtemps et qui connais sa sensibilité religieuse et le nombre incalculable de discussions qu'on a eues ensemble, je fais partie de ceux qui sont le moins surpris au final, tu vois.
Tu penses qu'un retour dans la musique serait possible ou pas?
Pour elle?
Ouais.
Non. Je crois pas une seule seconde.
Ouais.
Non.
C'est clair et net.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, n'espérez pas ce genre de truc, vous allez être déçus.
On parlait tout à l'heure de l'industrie de la musique. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, de l'industrie de la musique?
De manière générale?
Ouais.
Bah écoute, je pense que là, je vais parler un peu comme un ancien, mais comparé à mes années à moi, ça a évidemment beaucoup évolué. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Voilà, c'est quelque chose qui a évolué. Il y a plus d'argent, il y a moins de textes, tu vois. Tu peux faire beaucoup de parallèles avec ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai aimé, en tout cas dans l'industrie. Te dire si c'est mieux, si c'est moins bien, sincèrement, je sais pas. C'est différent, en tout cas, ça c'est sûr.
On va parler un peu plus de ton projet Nixie, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On a parlé de Balles Perdues. On va parler aussi du morceau à moi qui m'a touché un peu, comme tout à l'heure, tu parlais du morceau avec les enfants, Robert Debré. Comment il s'appelait là, les enfants malades?
C'était des anges.
C'était des anges, ouais. Qui était le morceau touchant de cet album.
Ouais.
Là, le morceau touchant, c'est Cicatrice. Cicatrice.
Ouais.
D'ailleurs, le clip, magnifique.
Merci, frère.
À la neige, le petit chalet, le truc. En fait, je sais pas si tu vas le voir comme moi. Mais moi, j'ai vu ce clip-là en mode... super beau, super... en gros, dans la vie de tous les jours, on peut avoir le sourire, on peut montrer qu'on est bien, qu'on est beau. Mais en vrai, au fond de nous, il y a une plaie ou il y a quelque chose qui nous touche.
D'où le titre, cicatrice. Je pense que, tu sais, des fois il y a des cicatrices qui sont invisibles, hein, frérot, tu vois. Et c'est exactement déjà ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire ce que je sais faire le mieux, du texte avec du contenu. Tout ce que je dis, évidemment, dans le morceau, c'est réel, donc je pense que ça se ressent aussi. Et puis voilà, c'est un peu aussi ma marque de fabrique, c'est de pas hésiter à se livrer, à parler de vraies choses. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure, quand tu me disais en tout cas que c'était assez varié dans la foule, machin, c'est parce qu'il y a des morceaux comme ça. Tu vois, suite à ce morceau-là, j'ai reçu énormément encore de messages de gens qui ont soit un parent malade ou de mecs qui sont divorcés, séparés, qui me disent voilà, moi mes gosses ils me manquent, tout ça. Et c'est les thèmes que moi j'aime aborder, en fait, tu vois. C'est pour moi, c'est l'essence même du rap. C'est des thèmes qui sont profonds, qui peuvent parler à tout le monde, qui vont toucher les gens même qui sont pas concernés, parce que voilà, le morceau il est bien écrit. Et c'est moi, c'est ce que je recherche vraiment. Voilà, ça c'est pour moi, c'est le truc que j'aime le plus faire, tu vois.
T'as bien dit là, tu fais bien de le dire, parce que c'est un morceau qui m'a touché et je suis pas concerné parce que j'ai pas d'enfant. Voilà, je suis pas séparé ou autre, mais bon, je me suis séparé plusieurs fois, donc ouais, ça m'a touché quand même.
Tu vois, au final.
Je vais bientôt aussi me séparer, peut-être, là. Non, je rigole.
Ouais, je te le souhaite pas.
Merci. Mais en vrai, ce qui est important aussi dans le morceau, et là où je voudrais rejoindre un point, c'est que déjà, ça se voit que cette situation, elle te peine beaucoup. Mmh. Comment tu le vis ?
Écoute, comme tout le monde, hein, on essaye de faire face, tu vois. Après, il y a deux couplets. Il y en a un qui parle de mon père qui est malade, qui a un certain âge, et je pense pas être le seul à avoir vécu ce genre de choses-là. Et il y a même des gens qui ont perdu leurs parents bien plus jeunes que moi. Moi, j'ai 40 piges, j'ai encore mes deux parents. On va dire, si on veut être quelqu'un de philosophe, que c'est la vie, et que voilà, malheureusement, c'est des étapes à franchir, mais c'est très 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 dur, en fait, de voir son père qui est l'image de la force, qui représente en tout cas pour moi l'image de la force, s'affaiblir. Donc c'est évidemment très dur. Et après, le côté séparé, moi je l'ai plus axé sur le côté où je vois moins mes filles, parce que bah forcément, quand t'es séparé, un enfant ça va avec sa maman et c'est tout à fait normal. Je pourrais pas me dire non, je la prends pour moi, etc. Enfin, il y a aucun père au monde qui peut séparer ses enfants de la maman. La maman, c'est le ventre, c'est les liens du ventre, c'est des relations que tu peux pas casser. Donc nous, les hommes, entre guillemets, bah on est un peu secondaire, en fait. Quand il y a une séparation, c'est une double peine. Tu te sépares et puis en même temps, bah du coup, t'as la séparation aussi avec tes enfants que tu vois moins. Donc c'est une organisation, c'est les week-ends, c'est ce que je dis dans le morceau, les week-ends, un mois d'été, etc. Tu vois, moi j'ai de la chance parce que en vrai de vrai, ça se passe bien mieux que ce qu'on peut croire dans le morceau. Ou voilà, en vrai, je vois mes filles quand je veux, je les ai très très souvent, etc. Mais quand tu fais un enfant, tu te dis pas je vais l'avoir très rarement. Enfin, dans ta tête, dans ton idéal, tu l'auras tous les jours, tu la verras grandir tous les jours. Tu vois, et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que bah là au final, ça va être une autre organisation. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce morceau, en fait, c'est que c'est pas tout ça, c'est pas évident à vivre.
Et toi, tu penses, parce que je reviens sur ce que tu dis qui est très important, tu penses que c'est normal que les enfants, quand on est séparés, ils aillent vers la mère, enfin ils aillent chez leur mère.
Qu'ils y aillent, je parle dans le sens où s'il y a un choix à faire,
ouais.
Tu peux pas, en tant que père, dire moi, à part si t'as une mère qui est déglinguée, ça peut arriver aussi. Il y a des mamans qui sont instables, qui sont, je sais pas moi, alcooliques, je te dis n'importe quoi. Donc évidemment, pour la santé de ton enfant, c'est mieux. Mais dans une situation normale, si t'as une maman qui fait son boulot, un papa qui fait son boulot, pour moi, c'est peut-être fou ce que je vais te dire, mais oui, je trouve ça normal parce qu'il y a les liens du ventre et que tu peux pas séparer un enfant de sa mère. Tu vois, c'est des liens qui sont à part, c'est une relation à part et au-delà de ça, tu peux pas séparer une mère de son enfant.
Mais tu dis pas ça parce que peut-être avec parce que votre séparation s'est bien passée. Parce que si, je te donne un exemple, si ta séparation s'était mal passée et que elle t'interdisait de voir tes enfants.
Non, mais là, après,
là,
c'est
peut-être
la guerre.
Que t'aurais. Voilà.
Oui, bien sûr.
Là, voilà, après, t'aurais dit, c'est là, soit c'est elle, soit chose. Moi.
Mais j'irais pas jusqu'à, par exemple, kidnapper mon enfant et me dire, je me l'accapare à moi.
Non, pas le kidnapper, moi, mais au moins faire les recours pour.
Oui, pour
se battre.
Voir
son
enfant,
que...
c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais si t'as la chance que ça se passe bien, je te dis, tu peux pas séparer un enfant de sa mère, et même dans l'autre sens, tu peux pas séparer une mère de son enfant. C'est des liens qui sont trop forts, c'est comme ça, t'as vu, nous les hommes, on peut pas lutter contre ça, tu vois. Même si personne te le dira jamais, t'es celui qui passe après, tu vois.
Bah,
ça,
la justice nous le dit, hein.
Bah voilà,
la justice donne tout le temps,
les
enfants
toujours au tribunal, et c'est pour ça qu'au final c'est toujours la maman qui est prioritaire. Et honnêtement, encore une fois, je peux tout à fait le comprendre.
Dans le titre, tu dis « Si loin de mes yeux, si près de mon cœur. Leur absence me tue, mais je suis réservé. » Si t'avais un mot à leur dire.
Ah, le savent, moi, mes filles, je les couvre de « je t'aime ». Je suis tout l'inverse de ce que mon daron était, en fait. Et je pense que nous, notre génération, en fait, on s'inspire beaucoup de nos parents pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tu sais, nous, nos parents... Enfin, toi, je sais pas, dans le studio, je sais pas, mais la génération de nos parents, c'est plutôt des gens qui sont taiseux, tu vois, qui sont travailleurs, qui sont pas très expressifs, tu vois. Moi, mon daron, il m'a jamais dit des trucs, ah, viens mon fils, on va parler, je t'aime, machin, c'est des trucs, on l'a jamais entendu, nous.
Beaucoup de pudeur.
Énormément. Et puis très froid, tu vois, les darons un peu à l'ancienne, quoi. Ça bosse, ça rentre tard le soir, ça a pas beaucoup de temps pour parler. Si ça intervient, c'est qu'il y a une galère. Tu vois, pas trop le temps de faire de philosophie, pas trop le temps de t'expliquer la vie. Et je pense que moi, je le vois avec même tous mes potos et tout, qui sont des grosses caïras de ouf, je connais leur vécu, etc. Mais quand tu les vois avec leurs gosses, ils sont ultra dans l'explication, ils sont dans la démonstration, plein de câlins, plein de je t'aime, plein de trucs. Au final, on se sert un peu de nos parents pour essayer de pas reproduire ce que nous on a vécu au final, et je trouve ça normal, tu vois.
Et donc t'es un papa gâteau, on va dire. C'est comme ça qu'on appelle ça.
Gâteau, je suis pas vraiment dans ce terme-là, parce que pour moi gâteau c'est vraiment, tu sais, t'acceptes tout, Moi je sais, je pense être juste, en fait. Je pense être juste, je pense que quand il faut hausser un peu la voix, je le fais. Quand faut être dans l'explication, je le fais. Quand faut être dans l'accompagnement, je le suis. J'essaye vraiment d'être dans tout ce qui fait un père au final. C'est à la fois de l'éducation, à la fois de l'affection, à la fois de la compréhension, de l'explication, tu vois, toutes ces choses-là qui font qu'au final, bah, moi, je suis arrivé à un stade où ma grande, elle a 13 ans, on peut parler de tout, on sait, tu vois, on parle de musique, on parle de tout, et je trouve ça mortel, en fait. Pour moi, c'est une grosse réussite, parce que tu dis, bah, j'ai réussi quelque chose. Il n'y a pas de barrière, en fait. Tu vois, nous, nos parents, par exemple, moi, quand j'ai commencé mes premiers morceaux, je pouvais pas faire ne serait-ce qu'écouter un morceau à mon daron, parce que j'allais être gêné. Il y avait cette barrière. Tu dis, putain, il va entendre des gros mots, des que trucs. T'as une manière, en fait, tu te dévoiles de ouf dans tes morceaux. Et du coup, bah, tu vois, moi, ma fille, aujourd'hui, elle est là, elle fait du piano, elle me raconte ses trucs, ses journées. Et je trouve que notre génération à nous est beaucoup plus complice. En fait, on est beaucoup plus complices avec nos enfants, parce que je te dis, on a eu des parents et puis on a eu des exemples sous le nez, tu vois.
C'est important, c'est important. T'as deux filles.
Ouais.
Tu voulais un garçon ou non?
Moi, je pense que Dieu me donne, frérot. Ouais. Et je veux dire la vérité, la relation... enfin, dans l'idéal, on se dit toujours, t'es un mec, tu veux des... Alors oui, au départ, avant d'avoir ma première fille, je me dis, ouais, le foot, on va aller au parc ensemble, tu vois, tu te projettes un peu comme tous les mecs. Et sincèrement, la relation d'une fille avec son père, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ouf. On dit souvent que c'est croisé, tu vois. Donc les fils, c'est souvent avec les mamans, et les filles souvent avec les papas. Et enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, je suis super heureux d'avoir deux filles. C'est une autre éducation, c'est d'autres craintes, mais en tout cas, c'est un grand kiff, tu vois.
C'est ce que je veux. Moi, je veux une fille.
Bah, je te le souhaite.
Pour qu'elle soit proche du papa.
T'as tout compris.
Près des câlins, ma petite fille d'amour. Oh, quand même. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ah oui, ça va, c'est important. Il y a aussi... quel est ton titre préféré dans le projet?
Il y en a plusieurs. Il y a Cicatrice, il y a L'Ancien, il y a BX Noir, et il y a le morceau que j'ai fait justement avec mes deux filles, où c'est ma fille d'ailleurs, Inès, qui a fait la prod, donc le piano, qui a composé entièrement le morceau.
Ah ouais?
Ouais.
C'est elle qui a fait la prod?
Ouais, le piano, tout en fait. Eux, c'est une génération de surdoués, frérot, t'as vu, ils vont sur YouTube, en deux minutes, ils apprennent à faire des sons, et je t'avoue que même moi, elle m'a mis une tarte, parce que ouais, d'arriver à composer un morceau, de rajouter le kick, de rajouter le violon, de rajouter deux gammes de piano, de rajouter le charlet, d'être autonome de ouf, de voir mon gars Dooms au studio qui est drivé par ma fille, ouais, fais ci, fais ça, c'est, franchement, elle m'a épaté pour de vrai, sincèrement. Et du coup, ouais, ce morceau-là, je le kiffe parce qu'il a un petit côté, tu vois, affectif.
Lourd. Voilà, c'est pour ça que je pose souvent cette question, parce qu'en vrai, il y a toujours des petites histoires derrière un morceau que nous, on sait pas.
Ouais.
Et que...
Elle chante sur le morceau, elle l'a composé, donc forcément, voilà, en tant que daron, tu vois ça, tu dis, à 13 ans déjà, ils arrivent à faire ce genre de truc au studio, et c'est prometteur, tu vois, c'est grave prometteur, et voilà, nous, on l'a jamais poussé à faire de la musique ou quoi que ce soit, mais ils s'y sont mis tout seuls, elle a grandi en studio, ma fille, quelque part, et tu vois, tu sens qu'elle a pris des énergies de partout, et je te dis, enfin, moi, à 13 ans, tu m'aurais dit de faire une prod, tu vois, même encore aujourd'hui, je sais pas faire, donc... C'est vraiment une génération de surdoués.
Mais c'est comme au foot.
Ouais.
Là, tu vas voir les U13, les U12, les U14. ils font des trucs, des virgules que moi-même aujourd'hui je n'arrive pas à faire.
Non mais c'est pour ça, je te dis, je le pense vraiment, c'est une génération de surdoués.
Ouais, de ouf.
Dans tout ce qu'ils font, s'ils aiment ce qu'ils font, ils vont le faire bien mieux et bien plus jeune que nous à notre âge. C'est-à-dire, si tu te bases sur nos repères à nous, à 13 ans, moi je savais à peine écrire des... Aujourd'hui, frérot, ça écrit, ça... ils savent monter des clips, ils savent faire des prods, et parce qu'ils ont des tutos pour tout, parce que ils... je sais pas comment dire, ils laissent traîner l'oreille, ils sont super attentifs. Quand ils aiment un truc, ils apprennent mais super vite. C'est je te jure que c'est épatant. Leur génération, je la trouve épatante. Les regarder, c'est un truc de ouf.
C'est vrai, hein, parce que même quand on parle, même des fois, je parle avec des pères de famille ou des mères de famille, on me dit ma fille, elle a 6 ans. Elle me parle comme la maîtresse d'école, alors là, non, tu ne dois pas. 6 ans, moi, je savais même pas parler. Même papa, oh mon gars, t'es un gogol ou quoi? Dis papa. J'ai redoublé le CP et tout, laisse tomber. La médiatisation, au niveau de l'album, etc. Cynique, on le voit moins, comme je disais, il y a eu ton album La Plume et le Poignard, il y a eu les autres albums aussi que je parlais tout à l'heure, j'ai plus en tête là. 8e Art, Immortel 2, Ballon d'Or, ce qui ont été disques d'or. Nous, on l'a pas ressenti comme ça. Parce que, en gros, moi personnellement, je savais même pas que t'étais disque d'or, je me suis dit, waouh. Ouais. Parce que t'avais pas l'exposition que t'as eu fut un temps. Comment tu l'expliques ça?
À un moment. Quoi qu'il arrive, il y a la barrière de l'âge. Il y a la barrière aussi où t'es à ton 5e, 6e, 7e album. T'es plus le mec, faut accepter que t'es plus le petit jeune qui arrive, etc. Il y a d'autres jeunes qui arrivent, qui sont très très forts, très talentueux, qui méritent d'avoir l'exposition que toi t'avais quand t'avais 25 ans. Du coup, toi, tu fais de la musique, mais différemment. C'est-à-dire que t'as tes petits relais à toi, etc. T'es moins visible. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que dans l'esprit des gens, quand t'es à la télé ou à la radio, peu importe les chiffres, c'est que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gage de réussite, en fait, et encore plus maintenant à l'ère des réseaux, etc., c'est que plus t'es visible et plus on t'entend, et sans même se renseigner sur les chiffres, etc., ça veut dire que c'est déjà, ça marche pour toi, je t'ai vu.
On voit partout.
Voilà. Et à l'inverse. Vois, exactement, frérot. Mais eux, ils doivent l'entendre tout le temps, ça, parce qu'au final, tu vois, quand t'es surexposé comme ça, bah, je te dis, les gens, ils disent, waouh, vas-y, ça cartonne, tu vois. Et après, il y a différents degrés. Si t'es tout le temps à la télé, ça cartonne de ouf. Si t'es tout le temps à la radio, t'as un petit morceau qui tourne en rotation, c'est, ah ouais, je t'ai entendu, ça marche bien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a différents degrés dans ces trucs-là. Mais la morale de l'histoire, c'est que quand t'arrives au niveau où moi j'arrive et que t'es plus le mec, le plus récent, etc., bah, tu fais avec tes réseaux à toi, avec tes trucs, c'est moins visible, mais qui compte au final pour moi, c'est le score de l'album. Et comme tu l'as dit, ça fait quand même des disques d'or. Alors c'est des disques d'or un peu anonymes, un peu discrets, mais au final t'as toujours un disque d'or sur ton mur et ça t'en fait un de plus, tu vois.
C'est très très lourd.
Et moi enfin, je veux dire la vérité, aujourd'hui un disque d'or d'aujourd'hui, ça a beaucoup plus de valeur qu'un triple un platine de l'époque où j'étais à Warner, etc., tu vois, parce que il y a plus de mérite à l'avoir aujourd'hui qu'à une certaine époque où t'es surmédiatisé. Voilà.
Là, c'est vraiment plus de charbon, plus de.
Ouais, mais après.
Et c'est vraiment les vrais gens qui écoutent du cynique et qui kiffent et qui prennent le temps d'écouter l'album, des trucs.
Frérot, je vais avoir des retours à minuit 5 des premiers morceaux, et c'est des trucs précis, frérot. C'est les prods, les trucs, les thèmes, les machins, les mecs, ils te connaissent par cœur. Tu vois, c'est les puristes, c'est la vraie base, c'est les vrais fans, c'est les mecs qui sont là depuis le début et ils sont suffisamment nombreux pour continuer à te faire kiffer et en tout cas pour te donner l'envie de te battre et à faire de la musique. Parce que moi, je cours plus après la gloire, je cours plus après ces trucs-là. J'ai fait le deuil de toutes ces années-là, je les ai vécues, j'ai kiffé. Maintenant, je les cherche pas, quoi, tu vois.
Justement, on parlait de la médiatisation et tu me disais que tu cours plus après tout ça. Pendant un moment, on avait vu, je vais pas dire on avait vu, mais moi, je vais parler de moi. Pour moi, ce que je pensais, c'est que t'étais ami avec Laurent Bouneau, avec Fred de Sky, parce que je te voyais là-bas, je disais, ces gars.
On l'a beaucoup dit. Mais
et aujourd'hui, on les voit plus avec Watt.
Bah parce que j'étais ami avec eux quand ça marchait. Après, Fred, je le mets vraiment dans un cas à part, parce que lui, c'est vraiment un mec qui m'a toujours soutenu, avant même que je sois connu, qui passait mes sons dans ses émissions du soir, etc. Donc, mais c'est pas lui le décideur. Mais Bouneau, tout le monde sait comment il fonctionne. Lui, il est là que quand ça marche. Et le jour où il sent qu'il y a une descente ou quoi, il se prend pas la tête. Il est archi pas dans l'affectif. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que moi, c'était des trucs qui me saoulaient. Ouais, truc, c'est ta radio, machin, ceci, cela. écoute, le jour où je me suis cassé la gueule, frérot, tout le monde a bien vu que c'était pas ma radio et tout le monde a bien vu que j'avais pas mes entrées là-bas et que, comparé même à d'autres artistes, j'ai pas eu de seconde chance. Ils se sont dit, vas-y, c'est mort, c'est mort. Et après, je te dis, c'est le début d'une autre carrière, mais tout le monde a bien vu qu'il y avait pas de passe-droit par rapport à Sky ou par rapport à aucun autre média. D'ailleurs, j'étais en place, tant que j'étais en place et que ça fonctionnait, tout allait bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver à tous les artistes du moment. C'est que tant que ça marche, t'inquiète pas, tout le monde sera là. La vraie difficulté, elle commence le jour où tu te casses la gueule, le jour où tu vends moins, le jour où on sent qu'il y a une petite descente, etc. C'est là que ça va commencer à être dur. Et il y en a, ça les surprend parce qu'ils pensent justement que les gens des radios sont leurs amis ou que, tu vois, tel mec de maison dit « Ouais, mais je suis parti manger une ou deux fois avec lui, une fois, etc. » Mais tout ça, ça veut strictement rien dire. Dans ce milieu, on t'aime et on t'ouvre les portes tant que ça marche. Le jour où c'est plus le cas, frérot, c'est tout l'inverse, frère. Tout se referme d'un seul coup. Et faut être préparé pour ce truc-là, quoi. Mais moi, je l'étais, donc ça va.
C'est bien de le dire, c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Lamal aujourd'hui sur Génération qui sont là et qui s'en foutent. On peut avoir des amis, on peut aimer des gens. Ouais, c'est comme ça, on s'en fout si tu vends ou pas. Même si tu vends moins un CD, tu peux venir dans mon émission avec plaisir. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il faut le dire. La sortie, le projet Nixi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Va l'écouter, va le télécharger parce que c'est du très très lourd. Est-ce que tu viendras dans l'émission de la Mal Live Show?
Ouais, bien sûr, frérot. Moi, je te dis avec grand plaisir.
Voilà, je te fais une invitation. Voilà, j'invite Cynic parce que j'ai kiffé l'artiste que tu étais. Je kiffe l'artiste que tu es et je pense kiffer l'artiste que tu seras encore.
Écoute, avec plaisir, mon ref. Merci.
Un petit truc, dernière question juste avant. T'es entrepreneur aussi?
Ouais.
T'as deux salons de tatouage?
J'ai des salons de tatouage, ouais, sur Paris, dans le 14e, Watch My Tattoo, et dans le 15e, WMT Tattoo Shop. Et là, on va ouvrir aussi une structure musicale qui s'appelle Iconic Music, où en gros, ce sera un studio, un pôle vidéo, un pôle réseaux sociaux, où on va accompagner les artistes de A à Z, en fait, avec du coaching vocal, avec tout ce qui fait la création d'un album. Ça ira des artistes lambda qui débutent à des artistes confirmés. Donc voilà, on va ouvrir une grosse structure où on pourra travailler tout ce qui fait la musique de A à Z, les photos, les réseaux sociaux, les clips, le studio, le coaching. Et voilà, ça c'est mon futur projet et je suis dessus.
Et comment on fait justement si on est un nouvel artiste et qu'on veut venir travailler avec toi ou travailler avec ton équipe?
Tu toques juste à la porte, tu nous fais écouter tes morceaux et si t'es motivé, après nous on est là, on t'accompagne et on... Et tout ce qu'on a acquis, et puis les contacts, les réseaux, les gens avec qui on a l'habitude de bosser. En fait, voilà, j'ai des années de musique derrière moi, je peux tout faire de A à Z, on a des contacts pour tout, on peut tout faire. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi rendre ces choses-là. Et cette structure, c'est pour ça que j'insiste, c'est aussi pour les artistes débutants, pas que les gens qui voudront venir enregistrer dans le studio. On met une grosse structure à disposition. Et si tu me dis, moi j'ai un projet mais je sais pas comment faire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux qui sont comme ça, qui sont forts, qui ont la base, c'est-à-dire le talent, mais qui savent pas comment travailler leur projet, qui savent pas comment développer leur image, qui savent pas comment faire une séance photo professionnelle, comment faire un vrai pucky avec des vrais mecs, etc. Et donc du coup voilà, on va ouvrir cette structure pour ça et ça s'appellera Iconic Music.
J'ai une dernière question à te poser, j'avais oublié. Est-ce que qu'est-ce que ça te rappelle?
Ça, mais ouais, c'était ici, ça. C'était ici avec Kaina. Et... Ça date, ça. 9 piges, ouais.
9 ans.
Ouais, grave. Mais ça fait longtemps hein, qu'on est dans la maison, hein, quand même. Hein. C'est bien de le rappeler.
Quel souvenir ça te rappelle?
Je me souviens que c'était le matin, frère. J'étais éclaté.
K.O.
Mais non, je te jure. C'était... Après, avec Kaina, on en a fait beaucoup, hein, des gros freestyles. On a fait beaucoup de morceaux aussi ensemble. Et du coup, je sais plus, sincèrement, je crois que ça devait être pour la plume et le poignard ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, on était venu. Je me souviens, on avait sorti le morceau Pinocchio et on était venu le défendre ici en live. Donc voilà, toujours un bon souvenir.
Merci en tout cas. Merci
Cynic. Merci à toi, mon ref.
Le projet Nixi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Merci Cynic d'être rentré dans l'octogone.
Génération Hip Hop Soul Radio.